18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
À ce stade, l'épidémie recule deux fois moins rapidement qu'en novembre. Ensuite, la pression hospitalière reste extrêmement forte et la situation reste très tendue, en particulier dans certaines régions.
D'un côté, les Français qui rêvent d'un retour à une vie normale. De l'autre, l'exécutif qui scrute les chiffres. On verra comment le gouvernement tente de concilier les deux.
En levant certaines restrictions début mai et en maintenant d'autres, peut-être même au-delà de la mi-mai d'ailleurs.
L'Inde doit-elle faire face à une vague brutale? Près de 300 000 cas et 2 000 morts en 24 heures. La France instaure une quarantaine pour les Indiens qui arrivent sur le sol français.
Les Britanniques inquiets pour leur souveraine. La reine Elisabeth fête aujourd'hui ses 95 ans dans un contexte forcément particulier.
Les Américains célèbrent, eux, la victoire de la justice. Le policier Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de George Floyd. On verra que ce drame aurait pu ne jamais être révélé au grand jour sans une jeune fille de 17 ans. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,74% à 6 210 points.
Et puis la météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
C'est le soleil qui domine demain.
Oui, sur la moitié nord particulièrement, il va faire beau. Demain, dans le sud, nous avons encore quelques nuages qui restent tenaces. Côté température, le retour de gelée matinale sur certaines régions, mais dans l'après-midi, la douceur est de retour. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et alors que l'échéance de la mi-mai évoquée par Emmanuel Macron se rapproche, l'exécutif réfléchit donc à son calendrier en vue d'un retour à une vie plus normale.
Oui, nouveau conseil de défense sanitaire ce matin autour du président de la République. Alors Aurélie Herbemont, bonsoir.
Bonsoir.
Le gouvernement veut donc pouvoir alléger les restrictions, mais sans pour autant ouvrir toutes les vannes.
Exactement, parce que l'exécutif a appris qu'il fallait être très très prudent avec le Covid, mais la feuille de route tracée par le président fin mars reste la base de travail avec donc comme objectif réaffirmé la suppression de la limite de 10 km pour se déplacer à partir du 3 mai et les fameuses attestations. L'exécutif envisage aussi pour la mi-mai une première étape de réouverture concernant les commerces, certains terrasses et certains lieux de culture. Alors les mots sont importants, j'ai bien dit première étape, certains, certaines. Vous avez compris, on va rester sur du progressif car comme le reconnaît un conseiller à Matignon, on est très loin d'être en pleine dégringolade de l'épidémie. Et les allègements, quand il y en aura, eh bien, ne se feront pas forcément au même rythme partout. L'option d'un déconfinement territorialisé est sur la table, car la situation est très différente selon les départements. Seule certitude, quand il s'agira d'annoncer la levée des restrictions le moment venu, eh bien, c'est Emmanuel Macron qui prendra la parole. L'objectif, c'est bien de tenir le calendrier grâce à la vaccination qui va dicter un conseiller un peu plus vite que prévu.
Merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Et vous nous le disiez, le gouvernement reste donc prudent. Il faut dire que la décrue est encore fragile et les chiffres préoccupants, comme l'a rappelé tout à l'heure le porte-parole Gabriel Attal.
Après une semaine de vacances et deux semaines et demie de mesures supplémentaires de freinage, les premiers effets sont perceptibles. Le nombre de nouveaux cas détectés diminue, tout comme le taux d'incidence. Il y a aujourd'hui très légèrement moins de patients hospitalisés que la semaine dernière et le nombre de personnes en réanimation tend à se stabiliser. Il apparaît que nous pourrions être au pic ou proche de l'être. Ce sont des résultats positifs, des résultats encourageants, mais je veux le dire, des résultats encore insuffisants.
Anne Le Gall, ces chiffres qu'évoque Gabriel Attal incitent forcément le gouvernement à la plus grande prudence.
Exactement, car le fait d'être au pic ne signifie pas la décrue et même si l'incidence, donc le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, baisse dans la plupart des grandes villes et elle a reculé de 17% en deux semaines en moyenne en France, le problème c'est qu'à l'hôpital, on ne voit pas encore d'embellie en raison du décalage de 10-15 jours entre les contaminations et l'aggravation des symptômes, une situation qui rend certains médecins très dubitatifs sur la levée des restrictions mi-mai. C'est le cas du professeur Dominique Rossi, président de la commission médicale de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Le nombre de malades qui entrent en réanimation augmente de jour en jour. Aujourd'hui, on est sur un plateau extrêmement haut depuis plusieurs mois et toutes les semaines, on se prend une ou deux marches supplémentaires. Je ne vois pas d'amélioration nette en réanimation avant 10-15 jours.
Et il n'y a pas qu'à Marseille, car au niveau national, le nombre de patients en réanimation reste à un niveau élevé. On en compte presque 6 000 actuellement. C'est plus que lors du pic de la deuxième vague. On compte aussi toujours plus de 350 décès quotidiens. Et le problème, c'est qu'avec la rentrée scolaire pour tout le monde le 3 mai, il est difficile d'anticiper la situation épidémique du 15 mai.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Vous l'évoquiez pour ce qui est des écoles. Le protocole de reprise sera précisé demain soir par Jean Castex et Jean-Michel Blanquer.
Une certitude donc, les écoles maternelles et primaires accueilleront bien les élèves dès lundi prochain en présentiel. On verra à 19h ce qui est mis en place pour éviter les bugs pour les collégiens. et pour les lycéens qui, eux, étudieront encore à la maison jusqu'au 3 mai.
Le gouvernement qui mise plus que jamais, évidemment, sur l'accélération aussi de la campagne vaccinale.
Au lendemain du verdict de l'Agence européenne du médicament qui juge son rapport bénéfice-risque favorable malgré de rares cas de thrombose, Johnson & Johnson va reprendre les livraisons de son vaccin en Europe. En France, il devrait être administré à partir de samedi aux plus de 55 ans. On attend néanmoins encore le feu vert de la Haute Autorité de Santé.
Et pour lever les réticences autour du vaccin AstraZeneca, le gouvernement envisage par ailleurs de faire appel à des personnalités pour une campagne de communication un peu particulière.
Oui, on y reviendra effectivement dans notre journal de 19h. La France qui se protège contre l'arrivée de nouveaux variants. Les passagers en provenance d'Inde seront par exemple soumis désormais à une quarantaine à leur arrivée à Paris. Un isolement obligatoire de 10 jours, comme pour ceux qui arrivent du Brésil, du Chili, d'Argentine ou d'Afrique du Sud.
Il faut dire que la situation en Inde est particulièrement préoccupante, Johanna Chabas.
Oui, avec près de 300 000 cas et plus de 2000 décès en 24 heures. La deuxième vague frappe le pays comme un ouragan, selon le Premier ministre. En à peine 2 mois, le nombre de malades a été multiplié par 20. Une hausse des contaminations due à un relâchement des mesures sanitaires. Les fêtes religieuses ont été autorisées et ont réuni près de 4 millions de personnes dans le nord du pays. Mais l'explosion des cas s'expliquerait surtout par la présence d'un nouveau variant, le B1.617, son surnom, le double mutant, car parmi ces nombreuses mutations, deux que l'on connaît déjà, présentes dans les variants californiens et brésiliens, le B1.617 serait très contagieux et pourrait déjouer les anticorps. Ce variant représente 11% des contaminations dans le pays. Le Premier ministre a donc demandé plus d'efforts à la population pour empêcher la propagation du virus, alors que les hôpitaux sont saturés et les stocks d'oxygène dangereusement bas. Depuis lundi soir, la capitale New Delhi est confinée pour une semaine et à partir du 1er mai, tous les adultes pourront se faire vacciner.
Merci beaucoup, Johanna Chabas. En Allemagne, les protestations s'amplifient contre l'adoption par le Bundestag d'un durcissement de la loi anti-Covid qui renforce notamment les pouvoirs de la chancelière en matière de lutte contre l'épidémie. Des milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui à proximité du Parlement. Il y a eu des incidents avec la police.
La reine Elisabeth II fête aujourd'hui ses 95 ans.
Oui, quelques jours après avoir enterré son époux, le prince Philippe, pas de grande cérémonie vu le contexte, pas de tir de canon. Les Britanniques s'inquiètent beaucoup pour leur souveraine. Elisabeth II qui a profité de cette journée particulière pour remercier ses sujets qui lui ont témoigné leur soutien depuis la mort de son mari. Reportage devant Buckingham Palace de notre correspondante Anaïs Cordoba.
Quelques jours après les funérailles du prince Philippe, l'image de la reine n'a pas quitté l'esprit des Britanniques. Alors en passant devant Buckingham Palace, Jane a le cœur serré comme de nombreux compatriotes aujourd'hui.
La reine est la matriarche de ce pays et du Commonwealth. C'est un moment tellement triste pour elle et pour nous aussi. On est une nation en deuil, ça m'émeut. Je lui souhaite juste bonheur et paix pour le temps qui lui reste.
L'âge avancé de la reine et le choc de la perte de son époux auront-ils un impact sur son règne? C'est la question du moment qui divise les Britanniques.
Personnellement, je pense qu'elle pourrait abdiquer dans les 2 prochaines années. Ce serait une terrible perte, pas seulement pour les Britanniques et le Commonwealth, mais pour le monde entier.
C'est la femme la plus forte sur cette terre et elle va poursuivre dans son dévouement et son devoir, car c'est ce qu'aurait aussi voulu le prince Philippe.
Au palais, un autre anniversaire est déjà en préparation, celui des 70 ans de la reine sur le trône, le jubilé de platine qui aura lieu l'an prochain. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
18h08, vous restez avec nous à suivre dans quelques secondes. Elle avait 17 ans quand elle a filmé le calvaire de George Floyd. Sans cette jeune fille, le policier Derek Chauvin serait sans doute aujourd'hui un homme libre.
Et puis il y a 5 ans, nous étions nombreux, abasourdis par l'annonce de la disparition du chanteur Prince.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h10, la suite du journal avec ce verdict historique hier soir aux États-Unis. Le policier Derek Chauvin reconnu coupable de la mort de George Floyd. Un autre verdict aurait été un déni de justice, dit aujourd'hui la haute commissaire de l'ONU.
On a entendu les cris de joie de la foule hier soir massée devant la cour de justice de Minneapolis. On va retrouver Sonia Dridi qui est la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Parmi les protagonistes de cette affaire, il y a une jeune fille dont le nom n'est pas connu et pourtant sans elle, Sonia, cette affaire n'aurait sans doute jamais eu ce retentissement.
Oui, le monde devait voir ce que je voyais. C'est comme cela que Darnella Frazier a expliqué son geste. Et depuis l'annonce du verdict, beaucoup aux États-Unis lui rendent hommage. L'adolescente se promenait avec son petit cousin dans les rues de Minneapolis lorsqu'elle est tombée sur la violente arrestation de George Floyd. Elle a filmé la mort de cet Afro-Américain pendant près de 10 minutes, étouffée sous le genou de Derek Chauvin, puis a posté la vidéo sur ses réseaux sociaux. L'affaire s'est très vite embrasée. Lorsqu'elle a témoigné au procès de l'ancien policier il y a quelques semaines, elle a dit avoir vu un George Floyd terrifiée, avoir tout de suite pensé que ce dont elle était témoin n'était pas juste. Elle a déclaré qu'en regardant George Floyd, elle voyait son père, ses frères, ses cousins. Dans un article, le Washington Post a écrit « Elle a certainement changé le monde en filmant la scène ». Darnella, qui dit être encore traumatisée par le drame auquel elle a assisté, représente la nouvelle génération d'Afro-Américains pour qui les téléphones sont les nouvelles armes pour lutter contre les bavures policières. Sans elle, la version des faits des officiers n'aurait sûrement pas été contestée. Sur son site internet, le département de police avait écrit que Floyd avait résisté à l'arrestation et était décédé d'un incident médical.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Emmanuel Macron, on l'a appris aujourd'hui, assistera vendredi aux obsèques nationales de l'ancien président tchadien Idriss Déby, tué hier lors d'une opération militaire.
C'est son fils qui lui succède, Mahamat Idriss Déby, nommé président par intérim. L'opposition dénonce un coup d'État institutionnel. En cyclisme, Julian Alaphilippe remporte la Flèche Wallonne. Pour la troisième fois, il devance Roglic et Valverde.
Au fil des heures, le projet de Super League s'est dégonflé comme un vieux ballon.
Et oui, cette compétition rivale de la Ligue des Champions a perdu depuis hier soir la quasi-totalité de ses participants. Après les clubs britanniques, l'Atlético Madrid, l'Inter Milan ont jeté l'éponge. La Juventus Turin, l'un des instigateurs, reconnaît cette fois que cette compétition a désormais peu de chances de voir le jour dans sa forme actuelle en tout cas.
Et puis c'était il y a 5 ans, le monde pleurait une star de la pop. Et quelle star, le chanteur Prince, mort à 57 ans. Europe 1 bousculait alors ses programmes pour annoncer la triste nouvelle.
Europe 1, il est 19h18, Nicolas Poincaré.
Le club de la presse reprend dans un instant, mais on apprend à l'instant la mort du chanteur Prince, de son vrai nom, Prince Roger Nelson, qui s'est éteint aux États-Unis à l'âge de 57 ans.
L'annonce de la mort de Prince sur Europe 1 par Nicolas Poincaré. Angèle Châtelier, Prince, une icône qui a inspiré de nombreux autres artistes.
Oui, à commencer par le boss, Bruce Springsteen, qui pour lui rendre hommage, chantait Purple Rain lors d'un concert à Brooklyn quelques jours après la mort de Prince. Purple Rain, Purple Rain. Purple Rain, Purple Rain. Et puis il y a Patti Smith sur When Doves Cry, voici sa version. Une version, on peut le dire, plus calme que l'original. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Entre le début des années 80 et 2014, Prince a joué de nombreuses fois en France, dans de grandes salles comme Bercy ou au New Morning, le temple du jazz par exemple. Alors il s'adresse à toutes les générations. Ce qui explique donc que Billie Shedid, 18 ans, la fille de M, se soit appropriée en français l'une de ses chansons pendant le confinement, avec son père à la guitare. Printemps et... ma saison préférée. Et les hommages à Prince ne devraient pas s'arrêter. Selon le site officiel du chanteur, il y a encore tellement de titres et d'ébauches de chansons encore jamais dévoilées qu'un album par an pourrait sortir sur les 20 prochaines années.
Un album par an de Prince.
Je rêve d'aller à un concert de Prince.
Ah ben c'est trop tard.
Mon grand regret. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30.